France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. On connaît très bien, sinon l'écrivain Gustav Meyrinck, du moins sa créature et son œuvre principale, le golem. On connaît Raymond Roussel. On connaît Michel Foucault, on connaît Raymond Abellio, on connaît Jean Marcal. Dans Belles Lettres, le 11 juin 1963, sur la chaîne nationale, Roger Vrigny proposait aux auditeurs une littérature d'initié.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Belles Lettres, revue littéraire de Roger Vrigny. Aujourd'hui, une littérature d'initié. Gustav Meyrinck ou l'ésotérisme dans le roman, un entretien réunissant Raymond Abellio et Jacques Maisel. Un alchimiste du langage, Raymond Roussel, par Michel Foucault. Une quête spirituelle, les Gaulois à Rome et à Delphes, deux études de Jean Marcal. Et le livre de la semaine, La foi des hommes, par Henri Petit. Lecture de texte par René Farabet.
Le sous-titre que nous avons choisi ce soir, une littérature d'initié, pourra peut-être intriguer certains de nos auditeurs, peut-être même les inquiéter aussi. L'ésotérisme, l'alchimie, la cabale, autant de mots mystérieux qui ne semblent pas toujours, au premier abord, concerner le domaine littéraire. Mais qu'on se rassure tout de suite. Et d'abord, qu'est-ce que la littérature, en fin de compte, si ce n'est pas un mode de connaissance, un moyen magique d'approcher une réalité ? Il y a le monde des apparences, il y a celui de la réalité. Il y a le monde du dehors et le monde du dedans. Une histoire que l'on nous raconte a toujours deux sens. Ou si l'on préfère, cette histoire est double. Elle doit nous suggérer une autre histoire qui, elle, n'est pas racontée. Un peu au fond, comme dans la vie, où la vie nous semble une histoire qu'on nous raconte et dont nous cherchons malgré tout le secret. Le premier exemple inscrit à notre sommaire de ce soir est là justement pour nous donner raison et pour illustrer cette difficile conjugaison de la littérature et de l'ésotérisme. C'est l'œuvre de Gustav Meyrinck, publiée par les soins des éditions de la Colombe dans leur collection Littérature et Tradition. La collection Littérature et Tradition se propose de publier l'intégralité de l'œuvre de Gustav Meyrinck, qui, je le rappelle, a vécu de 1868 à 1932. C'est la première fois qu'une édition complète en français des œuvres de Meyrinck est publiée. Parmi les premiers volumes, rappelons Le Golem, préfacé par Louis Povels, L'Ange à la fenêtre d'Occident, préfacé par Julius Evola, Le Dominicain Blanc, préfacé par Gérard M. Et prochainement, Jacques Maisel nous annonce la publication de La Nuit de Valpurgis, préfacée par Raymond Abellio. Nous avons réuni ce soir autour de notre micro Jacques Maisel pour qu'il nous parle justement de cette édition des œuvres de Gustav Meyrinck et Raymond Abellio, l'un des préfaciers de Gustav Meyrinck. Mais Raymond Abellio assiste à notre entretien et y participera parce que lui aussi et son œuvre illustrent parfaitement ce souci de connaissance adapté à un domaine romanesque. Je rappellerai que c'est bien normal que l'auteur de Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts et de La fosse de Babel participe ce soir à notre entretien. Jacques Maisel, je voudrais que vous nous présentiez tout d'abord assez rapidement quels sont vos projets pour l'édition intégrale des œuvres de Gustav Meyrinck et de nous dire en quelques mots ce que vous savez de l'auteur.
Les prochains livres à paraître sont donc La nuit de Valpurgis, qui parut pour la première fois en allemand en 1917. Ce sera ensuite Le visage vert, que préfacera Serge Hutin, Le visage vert qui parut, lui, en 1916. Puis nous sortirons sans doute Au seuil de l'au-delà. Au seuil de l'au-delà n'est pas un roman à proprement parler, c'est plutôt un essai ou un groupe d'essais sur les mouvements occultistes de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle.
Et cet essai a été composé par Gustave Mérinck après ou avant ces romans ?
Cet essai a été composé en 1925, donc entre Le Dominicain blanc, qui parut en 1921, et entre L'ange à la fenêtre d'Occident, le dernier roman complet de Mérinck, qui parut en 1927. Ensuite, nous ferons sans doute paraître une préface à un traité attribué à tort d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin sur la pierre philosophale. Et il y aura également un roman inédit, le dernier que Mérinck composait.
Et qui n'a pas été publié en allemand, par conséquent.
Il n'a pas encore été publié en allemand. Enfin, nous publierons les contes par lesquels Mérinck a débuté. Ces contes, je les divise en trois parties, en trois sortes. Il y a d'abord les satires de Mérinck, et elles sont violentes, c'est du vitriol contre la petite bourgeoisie allemande de l'époque, contre l'armée, il ne pouvait pas la souffrir, contre la bureaucratie. La deuxième série de contes, ce sont des contes d'animaux, jolis, plein de poésie, mais toujours applicable à l'homme, par leur moralité. Et puis alors la troisième série de contes, ce sont des contes à la Edgar Poe, des contes fantastiques, des contes qui font un peu peur et qui font dresser les cheveux sur la tête.
Par conséquent, Jacques Maizel, vous n'avez pas suivi, et volontairement sans doute, un ordre chronologique de composition pour l'ordre dans lequel vous avez publié les traductions de Gustave Mérinck. Ceci pour apprivoiser, je pense, déjà le public à son œuvre.
Exactement.
J'aimerais que vous nous parliez maintenant de cette personnalité, malgré tout secrète, et en tout cas méconnue, pour ce qui nous concerne. Vous avez fait déjà allusion à ces violentes satires adressées à son milieu. Pourriez-vous nous donner quelques indications sur le genre de vie de Mérinck ?
Mérinck, oui, c'est un être très étrange. Il est né en 1868 à Vienne, fils naturel d'un ministre du roi de Wurtemberg et d'une actrice bavaroise qui s'appelait Marie Meyer. Il est mis dans des collèges, sa mère régulièrement en paie la pension, mais il souffre, Mérinck, de ce manque d'amour, de ce manque d'affection de sa mère. Et on a dit, ses biographes allemands ont écrit, qu'il avait une véritable haine contre sa mère. Non, ça n'allait pas jusqu'à la haine, mais cette indifférence a traumatisé Gustave Mérinck.
Oui, certainement, c'est un sentiment de frustration, d'affection maternelle que l'on peut retrouver dans certains de ses personnages. Car même dans Le Dominicain blanc, nous avons affaire à un enfant adopté. Je sais bien aussi que l'adoption a une signification ésotérique, mais malgré tout, d'un enfant qui n'a pas ses parents, enfin qui n'a pas en apparence ses véritables parents.
Oui. Mérinck, malgré tout, fait de belles études en Allemagne. Et finalement, il devient, à Prague, copropriétaire d'un établissement bancaire. Il se marie en 1892... mariage d'ailleurs très malheureux. Il divorce, se remarie en 1905 avec l'actuelle Madame Mérinck.
Mais quand commence-t-il d'entrer dans la littérature ?
Justement, il semble que Mérinck soit entré dans la littérature pendant la période où il divorce. C'est en 1903 seulement que paraissent ses premiers contes satiriques. Ils paraissent dans le Simplicissimus, un journal satirique de l'époque. Là, Raymond Abellio, vous avez, je crois, bien connaissance de la biographie de Mehring.
Oui.
Et vous savez de quelle façon son premier conte a été repêché.
Repêché au sens littéral, puisqu'en effet, on a repêché son manuscrit dans la corbeille à papier où l'avait jeté le premier rédacteur qui l'avait lu. Seulement, il a été repêché par le rédacteur en chef.
Et en même temps, Mehring a été repêché donc pour la littérature.
Et considéré immédiatement comme un très grand écrivain.
Comment se fait-il que le reste de son œuvre soit dans une toute autre direction? Est-ce que la satire l'a conduit tout naturellement à un autre genre de connaissances?
Bien, je crois, quant à moi, qu'il avait besoin, si vous voulez, de vider un abcès. Hein? Une fois que cet abcès, il l'a eu vidé, et une fois également qu'il a eu les connaissances suffisantes, connaissances qui lui venaient d'Orient, qui lui venait d'Extrême-Orient, connaissance yogique, connaissance du Tao, connaissance de la Kabbale, et surtout vivant à Prague, vivant dans ce Prague de Kafka dont il est non seulement l'ami, mais dont il est également le maître, ne l'oublions pas, le maître à penser. À ce moment-là, Mehring écrit des romans, et le premier en date, Le Golem, se situe à Prague avec une influence kabbaliste très forte.
Je voudrais maintenant que Raymond Abellio nous dise ce qu'il pense justement de cette littérature romanesque et ésotérique. D'abord, comment est-ce possible?
Vous savez, je crois qu'il faut soigneusement distinguer au départ, quitte à les réunifier ensuite, il faut distinguer dans l'œuvre de Mehring le côté romanesque proprement dit, avec les techniques et les procédés du roman, et ensuite le contenu réellement ésotérique, ou si vous voulez, initiatique. Du point de vue romanesque, incontestablement, Mehring est un romancier. C'est un romancier de talent, et même, à mon sens, par moment, de génie. Il a un sens des masses, il remue un grouillement énorme de personnages, il a un style humoristique et poétique, il a, dans ses descriptions fantastiques, ce côté apocalyptique extrêmement évocateur qui sied évidemment à ce genre de littérature. C'est un homme qui, par conséquent, du point de vue de la technique romanesque, a une personnalité incontestable. On peut, si vous voulez même, d'un point de vue alors technique, étudier même ses procédés, car il faut parler de procédés. Il est en effet très parent, du point de vue technique, de tout le mouvement expressionniste allemand. Avec excès même, n'est-ce pas? Il est certain que pour des esprits cartésiens, ou des esprits français rationalistes, ou des esprits habitués à l'abstraction, n'est-ce pas, à la recherche des idées générales, vous avez chez Mehring une accumulation de mouvements extérieurs, d'apparitions, de fumigations, de fulgurances, d'éclairs, n'est-ce pas, d'objets mystérieux. Bon, tout ceci, objectivé d'une façon à la fois primitive, mais frappante, n'est-ce pas, incontestablement crée un climat spécifiquement Mehring. C'est de l'art fantastique au sens le plus étroit du mot et en même temps contenu quand même dans les limites d'un art. Il ne se donne pas tous les droits, si vous voulez, ce n'est tout de même pas gratuit. D'une part, le monde invisible a ses lois, et ses lois, Mehring les connaît et les respecte. Et d'autre part, quand même, d'un point de vue purement esthétique, il ne laisse pas libre cours à un débridement gratuit. Dans certains de ses livres, il laisse libre cours à une fantaisie un peu débridée, comme dans « L'ange à la fenêtre d'Occident », c'est un avis personnel que je donne. Au contraire, dans le Dominicain blanc, vous avez une construction plus classique, une construction beaucoup plus rigoureuse, et en ce sens, c'est encore une fois un avis personnel, je considère que le Dominicain blanc est son chef-d'œuvre.
Parce que justement, c'est le livre où l'utilisation des procédés artistiques se marie le mieux avec une préoccupation de recherche intérieure.
Exactement. Dans La nuit de Walpurgis, qui est un très grand roman aussi, n'est-ce pas, ce somnambule Scraddo, qui au fond a toutes les facilités, vous comprenez, il a tous les droits, le romancier lui donne toutes les facilités, tous les pouvoirs. Il peut à volonté prendre le visage de n'importe quel interlocuteur ou de n'importe quel personnage historique. Il est une sorte de canal absolument libre entre le monde invisible et le monde visible. Par conséquent, par ce personnage, on peut tout faire passer. Inutile de vous dire que c'est une facilité considérable, n'est-ce pas? À tout instant, que cet instant soit en situation ou qu'il n'y soit pas, ce somnambule peut dire ce qui lui passe par la tête, ou ce qu'une puissance invisible, n'est-ce pas, intelligente bien entendu, veut bien lui faire dire. Du point de vue romanesque, évidemment, c'est quelque chose qui donne au romancier une facilité considérable. Mais ceci, chez Mehring, n'est quand même qu'accessoire, si vous voulez. Il y a, dans l'ensemble de son œuvre romanesque, une rigueur, malgré tout, n'est-ce pas, qui tient justement aux lois de ce monde invisible. Alors c'est là que le deuxième aspect de son œuvre intervient. C'est quand même un ésotériste, c'est quand même un homme qui a une connaissance particulière du monde invisible, et cette connaissance lui impose ses freins, qui sont en fait les lois de ce monde.
Oui, parce que j'aimerais justement que nous prévenions ici les auditeurs que s'ils prennent le Dominicain blanc, n'est-ce pas, et s'ils l'ouvrent à la première page, ils entrent facilement, aisément en apparence, dans un monde romanesque comme ils ont l'habitude d'en connaître à travers d'autres livres. Et c'est un grand mérite du point de vue artistique, justement.
Exactement,
cette
oui.
simplicité ou cette limpidité apparente oui. qui est là pour cacher un mystère, n'est-ce pas oui. Mais comment et pourquoi peut-on appeler ce roman un roman d'initiation, si
bien,
vous voulez.
C'est parce que très vite, n'est-ce pas, sous cette apparence romanesque normale, traditionnel, très vite vous êtes plongé dans un monde tout à fait différent, un monde distordu en quelque sorte par rapport au monde des apparences, n'est-ce pas ? Et là, ce sont les procédés de Mehring qui jouent à plein. Alors là, vous avez des trucs, littéralement, et des trucs extrêmement bien utilisés, n'est-ce pas ? Par exemple, le parallélisme historique. Systématiquement, dans l'œuvre de Mehring, les personnages de l'époque qu'il décrit dans ses romans revivent des vies d'autres personnages historiquement bien plus anciens, n'est-ce pas ? Qu'une sorte de continuité, de parallélisme. Et là, il n'hésite pas à forcer la dose, à tel point que vous vous y perdez, finalement. Il y a un effet de brouillage du temps qui introduit, finalement, la notion même d'une synchronicité, la notion de l'éternel présent, par en effet un effet de l'art, vous comprenez. Vous pouvez protester, évidemment, l'esprit rationaliste du français va protester en disant « mais c'est un postulat, mais c'est gratuit, bien entendu, mais vous êtes pris au jeu quand même, n'est-ce pas ?»
Exactement.
Comprenez-vous ? Ces procédés sont au service, quand même, d'une idée, sont au service d'une connaissance.
Ah oui, justement, parce qu'on pourrait dire, il est facile d'écrire à ce moment-là des romans ésotériques, n'est-ce pas ? Puisqu'au fond, le romancier est maître de ses moyens artistiques, il peut s'en servir pour déformer la réalité qu'il
veut. Ce délire apparent, si vous voulez, est un délire quand même rigoureux. Il obéit à une volonté très concertée de l'auteur, incontestablement. Il sait où il vous amène, n'est-ce pas ? Tout ça est parfaitement construit et structuré. Voyez-vous, Mehring, dans chacun de ses romans, a utilisé un enseignement distinct, tout au moins d'une façon générale, en simplifiant un peu. Le golem, c'est kabbaliste. Le visage vert, c'est plutôt la pratique du yoga. Le dominicain blanc, c'est le Tao chinois. La nuit de Valpurgis, c'est un peu un mélange de tout le reste. L'ange à la fenêtre d'Occident, c'est l'alchimie et le tantrisme. Les inédits, au fond, font une synthèse de tout ça. La maison de l'alchimiste, autant que je puisse juger, prolonge l'ange à la fenêtre d'Occident dans le sens de l'alchimie, et ça va quand même beaucoup plus loin, n'est-ce pas, à mon sens. Dans chacun de ces romans, par conséquent, vous avez une technique particulière qui est utilisée. Ça correspond, au fond, aux études que Mehring a poursuivies tout le long de sa vie. Mais, néanmoins, et c'est là justement que la limitation apparaît, ou tout au moins qu'on peut faire une critique, si vous voulez. On a l'impression que Mehring était arrivé, avant d'écrire le golem, à une sorte de connaissance définitive, qui ne posait plus de problème pour lui. Il était, si vous voulez, un peu comme a été Guénon. Vous savez ce quelle a été la caractéristique générale de l'œuvre de Guénon en France. Au moment où l'occultisme, à la fin du XIXe siècle, était en plein dévergondage, Guénon est apparu et a été le grand épurateur. Il a introduit des définitions, il a introduit une structure dans cet immense domaine qu'est la connaissance ésotérique. Cette œuvre, il l'a faite au nom d'une connaissance totale, immédiatement acquise, si vous voulez, définitive. On peut dire qu'il n'y a pas de problème dialectique ou de progrès dialectique dans l'œuvre de Guénon. Le côté initiatique de Guénon est un côté à la fois originel, mais définitif.
Bon. Et vous retrouvez le même phénomène
chez Mehring. Je retrouve le même phénomène chez Gustav Mehring. Et un de ses biographes allemands, qui s'appelle Eduard Frank, se sert de l'image suivante. Il dit, dans l'œuvre de Mehring, on n'a pas l'impression d'un progrès. On n'a pas l'impression d'un tâtonnement qui fait monter l'œuvre vers quelque chose de plus connaissant, n'est-ce pas, de plus clair. De plus précis.
Non, parce qu'il est parti d'une connaissance acquise définitive.
On a l'impression d'une sphère dont les différents romans sont des rayons, partant tous d'un centre unique, correspondant à une acquisition faite une fois pour toutes. Ceci correspond fort bien, à mon sens, à ce qu'est l'œuvre de Guénon dans le domaine actuel de l'ésotérisme. Il y a chez Mehring, incontestablement, par rapport au monde moderne, à l'histoire moderne, une position exactement semblable à celle de Guénon, c'est-à-dire non pas une condamnation sans phrase totale, n'est-ce pas, mais le fait que Ce monde ne lui apporte rien, si vous voulez, n'est-ce pas? Ce monde ne l'enrichit pas. Il le décrira comme dans la nuit de Walpurgis, mais ce sera la simple répétition d'un épisode déjà passé. D'ailleurs, il parle d'événements qui naissent, foudroyants, mais sans raison, n'est-ce pas? Des événements éclateront les uns après les autres, écrit-il, presque sans raison. Mais incontestablement, c'est pas vrai, vous comprenez. N'importe quel événement, aussi subjectif soit-il dans le jugement que nous portons sur lui, a une raison, ne serait-ce que de nous émouvoir et de nous obliger, nous, à monter un peu. C'est cette sorte de dialectisation de l'histoire, si vous voulez, qui crée pour moi, alors moi je parle maintenant en romancier si vous voulez, n'est-ce pas, une dimension supplémentaire, n'est-ce pas, du roman métaphysique. Le roman métaphysique de Mering m'apparaît comme quelque chose d'extraordinaire sur le plan de l'initiation, sur le plan du choc, de l'insertion de mon invisible dans le monde visible, de l'irruption dans la littérature romanesque purement psychologique d'une dimension entièrement nouvelle qui est la dimension du monde invisible. Mais en plus alors, une fois acquis cette irruption, n'est-ce pas, du monde invisible dans le monde visible et de l'ésotérisme par conséquent dans le roman, il faut que cet ésotérisme devienne réellement métaphysique. Ce qui n'est pas, à mon avis, n'est-ce pas, complètement dans l'œuvre de Mering. Et pour ceci, il faut l'irruption de la dialectique. Il faut qu'entre le monde des apparences, le monde de l'histoire que nous vivons, et le romancier et les héros du roman, une dialectique se noue qui crée, je ne dis pas un progrès, si vous voulez, de l'un à l'autre, mais réellement une conversion de la conscience.
C'est une autre figure mystérieuse et peu connue du monde des lettres, nous parlons du grand monde des lettres et de celui du public, que nous allons découvrir maintenant, la figure de Raymond Roussel, qui, au dire d'André Breton, a été, avec Lautréamont, le plus grand magnétiseur des temps modernes. Il vient de paraître chez Gallimard une étude sur Raymond Roussel, signée par Michel Foucault, et c'est le premier ouvrage paru dans ce genre, qui nous donne une initiation, le mot est de circonstance dans ce numéro de ce soir, une initiation à une œuvre difficile d'accès et qui nous donne des aperçus extrêmement intéressants et vivants et actuels sur l'influence de Roussel sur la littérature contemporaine. Michel Foucault, de formation universitaire, il est agrégé de philosophie, docteur ès lettres, a déjà publié d'autres essais, nous citerons « Naissance de la clinique » et « Histoire de la folie ». Michel Foucault, je m'en voudrais ici de présenter votre livre, car il se présente de lui-même par la façon dont vous avez abordé l'œuvre de Roussel, une façon extrêmement vivante, percutante aussi, et quelquefois éblouissante par les formules trouvées, par les rappels, mais peut-être aussi, et ce n'est pas une réserve, c'est une observation un peu difficile pour qui ne connaît pas, tout bonnement, si vous voulez, la vie de Roussel, son genre de vie tout au moins, et son œuvre. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots de l'homme Roussel.
Eh bien, nous savons très peu de choses de l'homme Roussel. Nous savons simplement qu'il appartenait à une famille riche, une famille colossalement riche, ce qui l'a préservé de tous les besoins matériels, ce qui lui a permis de travailler dans un silence, dans une clôture absolue à son œuvre extraordinaire. Nous savons aussi qu'il a été malade mental, il avait une névrose obsessionnelle, il a été soigné par Janet, on trouve son observation dans l'angoisse à l'extase sous le nom de Martial. Et puis, quelques semaines, quelques mois avant de mourir, Raymond Roussel lui-même a écrit un petit livre qui s'intitule « Comment j'ai écrit certains de mes livres » et où il donne quelques détails très avares, très rares, très objectifs, très froids sur lui-même. Et puis, nous savons que Raymond Roussel était toxicomane, et quand il est mort, c'était le 14 juillet 1933, eh bien, on n'a pas pu savoir s'il s'était tué.
Il y a aussi un mythe Roussel.
En effet, ce mythe Roussel, il appartient aux surréalistes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'œuvre de Roussel, je crois, se développe en deux parties, peut-être sur deux plans. La partie, curieusement, la plus connue, la plus exotérique, c'est celle que les surréalistes ont lue, ont déchiffrée et dont ils ont chanté à plusieurs reprises les louanges. Il y a une autre partie de l'œuvre de Roussel qui est beaucoup moins connue et pourtant elle était en elle-même, au fond, moins ésotérique. Ce sont les premiers textes de Roussel, comme La doublure, La vue, qui sont des textes absolument descriptifs, Raymond Roussel, par exemple, dans un texte qui s'appelle « La vue », décrit ce qu'on peut voir à l'intérieur de la lentille d'un petit porte-plume souvenir. Nous pourrions demander à René Farabée, par exemple, de lire un petit texte emprunté à la vue.
On entend un cheval immobile hennir, loin aussi, par là-bas. Lui, sans la prévenir, pour la faire tourner complètement, la pousse du bras droit, lentement, par une étreinte douce, pendant qu'en la prenant de sa main gauche, il la retient, toujours sans parole, la regardant. Il vient, lui, de s'arrêter là, mais sans qu'elle comprenne encore ce qu'il veut. Maintenant, il l'entraîne plus fort, en la faisant tourner autour de lui, en lui donnant toujours son bras pour point d'appui, et presque sans savoir comment elle se trouve dans le sens opposé. Lui, longuement, la couve du regard, sans parler, en gardant son même air. Ils repartent avec, à leur gauche, la mer.
Après cette lecture, faite par René Farabet, d'un texte de Raymond Roussel, revenons à notre débat, Michel Foucault, car nous voici assez loin, au fond, de cette initiation dont on parle assez souvent concernant Roussel, et quand on le considère justement comme un initié.
Bien, en effet, il y a là un problème qui est important, qui est curieux, qui est obscur, je crois. Quatre des œuvres centrales de Raymond Roussel sont construites, en effet, selon des procédés de jeu de mots, d'allitération, d'assonance, qui sont très curieux. Roussel prenait un mot, il lui donnait plusieurs sens, ou encore il prenait un mot, il le décomposait en ses phonèmes essentiels, et il essayait de reconstruire, à partir de ces nouveaux sens, ou de ces nouvelles unités phonétiques, d'autres phrases, nécessairement bizarres, étranges, souvent absurdes. Et il s'agissait pour lui de construire un récit qui puisse justifier le passage de la phrase première à cette phrase seconde. Ces récits, évidemment, faisaient naître tout un monde fantastique qui a laissé supposer que Raymond Roussel était peut-être un initié qui voulait, dans ses messages curieux, étranges, manifestement dévoilés et cachés, faire passer quelque chose qui était de l'ordre peut-être d'un savoir initiatique.
Est-ce que c'est votre interprétation ?
Eh bien, je n'ai pas l'impression, et j'aimerais mieux, sans savoir d'ailleurs si Roussel était ou non initié, j'aimerais mieux interpréter l'œuvre sans utiliser une pareille hypothèse. Et il me semble que l'on pourrait très bien comprendre Roussel dans la perspective de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une littérature linguistique. C'est-à-dire une littérature qui essaie de trouver dans les formes du langage, qui essaie de trouver dans les lois fondamentales de cet instrument qu'est le langage, le principe de toute littérature et de toute imagination possible. Et il me semble que dans cette mesure-là, Roussel n'est peut-être pas l'homme solitaire que l'on a l'habitude de décrire. À ce moment-là, on pourrait peut-être retrouver toute une tradition. Et il suffirait de penser, bien sûr, aux rhétoriqueurs de la Renaissance. Il faudrait penser également à ces gens du XVIIIe siècle qui se sont si fort intéressés à la fois au mystère et aux lois du langage. Et c'est peut-être là que Roussel rejoindrait, mais d'une manière indirecte, l'initiation. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un certain nombre de gens comme Cour de Gébelin, ou comme Révéronis Saint-Cyr, ou comme Ballanche, qui se sont intéressés au langage en lui-même et qui ont essayé de développer un certain nombre de savoirs d'ordre plus ou moins initiatique à propos de ce langage. Et ils ont essayé de bâtir, comme Cour de Gébelin, comme Révéronis Saint-Cyr, de bâtir une littérature à partir de ce savoir ésotérique du langage. Et je crois que au cours du XIXe siècle, avec Jean-Pierre Brisset et avec Raymond Roussel, alors se fait un partage, c'est-à-dire que cette littérature linguistique se détache peu à peu de son origine manifestement ésotérique et initiatique, et que est en train de naître actuellement une littérature purement linguistique qui tire toutes ses ressources du langage lui-même. Raymond Roussel serait peut-être le premier mutant dans cette évolution, et Michel Léris, Rob Grier actuellement, seraient ceux qui auraient peut-être bénéficié de cette libération du langage et de la littérature du langage par rapport à l'ésotérisme, libération dont Raymond Roussel serait peut-être le premier artisan. Il me semble en tout cas qu'il n'y a rien dans l'œuvre de Roussel qui permette de dire qu'il y avait une démarche initiatique. Raymond Roussel ne va pas de la nuit à la lumière, il ne va pas de l'ombre au soleil. Le monde de Roussel est un monde entièrement positif.
Oui, c'est donné déjà.
C'est un monde déjà donné, c'est un monde de la lumière déjà là, c'est un monde du grand cristal étincelant, ce cristal qui est précisément décrit au début de Locus Solus.
Cantrelle avait trouvé le moyen de composer une eau dans laquelle, grâce à une oxygénation spéciale et très puissante qu'il renouvelait de temps à autre, n'importe quel être terrestre, homme ou animal, pouvait vivre complètement immergé sans interrompre ses fonctions respiratoires. Le maître voulut construire un immense récipient de verre pour rendre bien visibles certaines expériences qu'il projetait, touchant plusieurs parties attirées de l'étrange liquide. La plus frappante particularité de l'onde en question résidait, de prime abord, dans son éclat prodigieux. La moindre goutte brillait de façon aveuglante, et même dans la pénombre, étincelait d'un feu qui lui semblait propre. Soucieux de mettre en valeur ce don attrayant, Cantrelle adopta une forme caractéristique à multiples facettes pour l'édification de son récipient qui, une fois terminé, puis rempli de l'eau fulgurante, ressembla servilement à un diamant gigantesque. C'était sur l'endroit le plus ensoleillé de son domaine que le maître avait placé l'éblouissante cuve, dont la base étroite reposait presque à ras de terre dans un rocher factice. Dès que l'astre luisait, l'ensemble se parait d'une irradiation presque insoutenable. Certains couvercles métalliques pouvaient au besoin, en bouchant un orifice rond ménagé dans la partie plafonnante du joyau colossal, empêcher la pluie de se mélanger avec l'eau précieuse, qui reçut de Cantarelle le nom d'Aqua Micans.
Après Gustave Meyrinck et Raymond Roussel, nous allons faire un bond dans l'espace et dans le temps, mais nous ne quittons pas pour autant l'ordre de préoccupation qui est le nôtre ce soir. Il s'agit de présenter deux études remarquables publiées par Jean Marcal sur Rome et l'épopée celtique et Delphes et l'aventure celtique. Ces deux études ont été publiées dans la revue Les Cahiers du Sud et réunies en deux opuscules par les soins de l'auteur. Mais nous espérons, Jean Marcal, que vous nous ferez bientôt le plaisir de réunir avec ces deux études les autres travaux que vous faites actuellement et que vous préparez pour que, par les soins de l'édition, nous ayons connaissance de ces recherches patientes, éclairées et passionné aussi, que vous faites depuis plusieurs années, sur les Celtes, sur le problème celtique, et notamment sur cette civilisation gauloise qui a été, disons, déformée par les conquérants romains, qui sont, en quelque sorte, les occupants de nos ancêtres. Je voudrais vous demander tout d'abord, pourquoi, professeur de formation universitaire, professeur de lettres, vous vous êtes particulièrement intéressé au problème des Celtes?
C'est d'abord parce que je suis breton moi-même, et le problème des origines de la Bretagne m'a toujours passionné. J'ai cherché dans ma province les légendes, les contes et les coutumes de la civilisation bretonne, et par là je suis passé beaucoup plus loin que mon but primitif. Je suis allé vers les origines de la race celtique, c'est-à-dire en étudiant l'histoire des Gaulois et même en allant beaucoup plus loin vers les peuples mégalithiques. Ce qui fait que mon champ d'investigation s'étend sur une période extrêmement large, allant de la naissance de l'Occident jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Je trouve en effet que dans tous les textes du Moyen-Âge, nous avons un reflet peut-être très pâle de tout ce qui peut constituer cette civilisation celtique ancienne. Et en partant de ces récits tant français que gallois, qu'irlandais, j'ai essayé de remonter le courant et j'ai abouti ainsi aux auteurs grecs et aux auteurs latins qui ont parlé des Celtes parfois avec beaucoup d'erreurs, mais qui sont tout de même actuellement les seuls témoins capables de nous donner quelques idées sur cette civilisation. Les auteurs latins et grecs, chaque fois qu'ils parlent des Celtes, nous les présentent comme des héros immenses et batailleurs qui viennent par-delà les montagnes massacrer des habitants de leur ville et qui sont auréolés d'une certaine gloire, une gloire qui fait peur. C'est dans ce sens que les Romains, après la bataille de l'Allia, ont toujours craint les Gaulois, et c'est pour cela qu'il parlait du tumulte gaulois, du tumultus gallicus, dont il est question tant de fois dans les auteurs latins.
Mais alors justement, Jean-Marc Hall, ce qui est très intéressant dans vos deux études, l'épopée celtique à Rome et l'épopée celtique à Delphes, c'est que ce peuple mystérieux a été interprété, en quelque sorte, par le monde antique, avec les normes antiques. Je veux dire qu'ils l'ont considéré comme un peuple de pillards, de conquérants. Et vous nous faites voir que ces aventures ne sont pas des aventures de conquête matérielle, mais sont des aventures de conquête spirituelle. Et particulièrement pour ce qui concerne l'aventure de Delphes. Qu'allaient faire les Gaulois aux environs du 3e siècle, je crois avant Jésus-Christ, à Delphes?
Eh bien, d'après les auteurs grecs, évidemment, ils allaient piller. Mais il y a tout un contexte mythologique dans les récits que nous possédons sur cette aventure. D'abord, ce sont des aventures extraordinaires. Les batailles se déroulent selon un processus beaucoup plus mythique que réel.
Et pourquoi?
Car à Delphes se trouve un centre extrêmement intéressant, qui est le centre du culte solaire. Or, les Celtes avaient eux aussi une conception solaire de la divinité. Et le culte solaire s'était implanté très tôt en Grande-Bretagne, et a laissé des traces à l'époque pré-celtique dans des monuments mégalithiques comme celui de Stonehenge. Or, les auteurs grecs et latins font une comparaison entre Delphes et Stonehenge, sans nommer évidemment Stonehenge, dont nous ignorons le nom ancien, mais on reconnaît facilement ce grand temple circulaire où descendait l'Apollon hyperboréen. En somme, c'est autour de la notion du culte de l'Apollon hyperboréen que semble se dérouler cette expédition à Delphes. Il s'agit d'une tentative spirituelle de connaissance du monde et de recherche des profits spirituels.
Dans ce numéro consacré à différentes aventures littéraires qui retracent toute une quête spirituelle, nous terminerons par un livre de sagesse, dont l'auteur, qui s'inscrit dans la longue lignée des moralistes français, est à placer plus du côté de chez Montaigne que du côté de chez Pascal. Il s'agit de La foi des hommes, publié par les éditions Bernard Grasset, sous la signature d'Henri Petit. Henri Petit tient toujours une sorte de journal sur lequel il inscrit les pensées qui lui viennent à propos de tel ou tel problème, qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse du bonheur, qu'il s'agisse de l'amour ou du domaine du sentiment. Et puis, à un certain moment, il semble que ces différentes pensées s'organisent, qu'il puisse les regrouper, qu'il puisse en faire un ensemble et... Alors apparaissent ses ouvrages sur le bonheur, sur le problème des jésuites et des jansénistes, ou bien sur les problèmes du cœur dans De la tête au cœur. Maintenant, c'est La foi des hommes. Et il est bien difficile de rendre compte d'un tel livre qui ne se veut ni un ouvrage d'exégèse, ni surtout un livre de combat, et qui traite pourtant des problèmes les plus essentiels au cœur de l'homme, mais aussi les plus controversés dans sa raison. Comment le faire sans choquer la foi de ceux qui croient, sans mépriser le doute des agnostiques, sans provoquer la hargne ou le désespoir des athées. Eh bien, je crois qu'il faut faire comme l'auteur lui-même, il faut le faire comme Henri Petit, qui s'interroge sur la foi avec une simplicité d'enfant. Mais cette simplicité est doublée d'une attention aiguë, qui court à la vérité et qui le fait non sans bravoure. Sans jouer les philosophes, et encore moins les théologiens, il se parle de Dieu, de la foi qu'il a perdue, de tous ces émerveillements d'enfant, comme tant d'entre nous le font, mais très vite, en passant, au gré d'une émotion ou d'un souvenir. La foi, pour chacun, est comme le soleil, à une hauteur donnée de l'espace. Pas de chrétien sans chrétienté. Être chrétien, ce n'est pas une manière de croire, mais de vivre ensemble. Il n'y a aucun rapport entre la loi et le cœur des hommes. D'ailleurs, on ne mesure pas le cœur des hommes. On ne mesure pas ce qui, en nous, est goût et désir de Dieu. Il faut bien dire pourtant que ce petit feu et cette intime dévoration restent le signe de toute âme vivante et que dans l'Église ou ailleurs, il n'y a, hors de cette brûlure, que fausse spiritualité. Nous venons de lire quelques exemples de ces pensées extraites du livre d'Henri Petit, La foi des hommes. Nous aurions aimé recueillir son témoignage ce soir. Malheureusement, Henri Petit est retenu chez lui par la maladie et il nous a envoyé une sorte de petite déclaration de pétition de principe que René Farabet va nous lire et qui explique dans quelle intention il a composé son ouvrage.
Dès la première page, j'ai écrit ces lignes qui m'engagent avec cette droiture un peu brutale dont je me suis fait une loi et qui amenait des amis plus raffinés autrefois à me traiter de Burgonde. Quelle que soit la réalité de Dieu, si incertaines que soient toutes les définitions des théologiens et des philosophes, une certitude demeure. Toute âme libre a d'elle-même le sentiment de Dieu et du divin. Qu'elle croit, doute ou nie, elle se tourne dans la direction de Dieu, comme la plante vers le soleil, comme l'aiguille de la boussole vers le pôle magnétique. Ce Dieu qu'elle ne peut pas définir, qu'elle ne peut pas toujours affirmer, contre lequel, bien souvent, elle est en révolte, ou qu'elle discute, et même repousse et nie, l'âme témoigne pour lui, serait-ce en dépit d'elle-même. Mais je n'ai pas à monceler des pensées touchant la foi par manière d'exercice de style. Je ne suis pas, comme on l'a cru, et un peu par ma faute, un écrivain d'aphorismes. Faire des collections de maximes, même réussies, m'a toujours paru un peu vain. Si j'écris par fragments, généralement assez court, sans souci de transition postiche, c'est pour ne pas dépasser la portée présente de ma pensée. C'est par fidélité à une sorte d'impressionnisme auquel j'ai toujours cru. Je veux exprimer ce que je sais et ce que je sens au moment même, sans dépassement ni tricherie. Je veux pouvoir répondre de tout ce que j'écris. Cela m'oblige à m'arrêter brusquement quand je suis arrivé au bout de ma pensée ou de mon sentiment. J'envierais ceux qui font plus et mieux si, malgré moi, quelque chose ne me disait qu'ils pourraient bien être des rhéteurs. Un ami trop généreux m'écrit que mon livre lui semble une métaphysique pétrie de chair et d'âme, un universalisme enraciné au plus profond de l'individu, un humanisme qui ne se nourrirait que d'absolu, et il ajoute qu'il n'y a pas une page où la totalité du problème ne soit posée, et dans ses termes les plus irréductibles, l'eau et le feu. Voilà des éloges dont je me contenterai bien d'avoir mérité le millième. Les amis sont comme cela. Ils vous traitent de Burgonde un jour, l'autre, ils vous élèvent à des altitudes qui pourraient vous donner le vertige si vous n'étiez pas doué de quelque discernement. Il est vrai que ce ne sont pas toujours les mêmes amis. En fait, homme de mon temps, je me suis retourné sur la foi de mon enfance et sur celle des miens. J'ai interrogé ma raison et mon cœur, très simplement, sur tout ce que je dois à cette foi, sur ce que j'ai perdu en la perdant, mais aussi sur ce que je peux avoir gagné en courage et en lucidité. Croyants et incroyants manquent plus encore d'imagination que de charité les uns à l'égard des autres. C'est prodigieux comme des gens qui ne sont pas dénués de toute finesse peuvent, en ces matières, se laisser gagner par des idées toutes faites qui sont généralement d'une pauvreté déconcertante. J'ai essayé de comprendre avec sympathie les uns et les autres dans ce qu'ils ont de meilleur. Vous ne trouverez aucun esprit de système dans ce livre, mais je l'espère, un sens vrai de ce qui peut unir les hommes.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté « Belles lettres », revue littéraire de Roger Vrigny. Aujourd'hui, une littérature d'initié. Gustave Meyrinck ou l'ésotérisme dans le roman, un entretien réunissant Raymond Abellio et Jacques Messel, un alchimiste du langage, Raymond Roussel par Michel Foucault, une quête spirituelle, les Gaulois à Rome et à Delphes, deux études de Jean Marcal, et le livre de la semaine, La foi des hommes par Henri Petit. Lecture de texte par René Farabet. Assistante de réalisation, Michel Thierry.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 11 juin 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».